Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Je vais laisser les autres trouver un peu d'espace vital. Eh bien, ma foi, bienvenue pour cette table ronde sur Alien, film féministe, point d'interrogation, pour explorer cette vaste question. Nous avons un panel de choix, alors, composé d'une entité, d'un collectif, qui est là-bas, que je présenterai comme ça, des collectifs, les agglomérés, responsables d'un travail très original, il faut dire, d'un objet littéraire non identifié, et qui nous a mis 15 ans, donc, par expérimentation, à écrire. Là, qui s'appelle Subtil Béton. Nicolas Martin, que vous connaissez peut-être surtout à la radio pour une des meilleures émissions de tout l'espace radiophonique français qui est La Méthode Scientifique. Laura Lam, qui est avec nous, qui enseigne notamment l'écriture créative en Écosse et qui a elle-même écrit des romans, dont La Lumière Lointaine des Étoiles ou Cœur Artificiel. Et Marc Caro, que l'on présente toujours, hein, notamment pour ce qu'il nous a apporté avec ses collaborations à travers Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus ou Dante 01. Et si la structure des productions cinématographiques de ce pays n'était pas à pleurer pour leur incurie, il aurait certainement une dizaine de films en plus à son actif. Mais ça viendra peut-être, hein, une télomérisation, une vision... Enfin, voilà, on verra. Donc, Alien, film féministe, c'est une excellente question. Je vous présente rapidement le film de Ridley Scott. On est au tout début de la carrière de Ridley Scott, à un moment où il va en bonne partie faire progresser, voire révolutionner, mais dans la continuité, plusieurs genres de l'imaginaire, en y amenant un angle issu du film noir et du roman noir dont il est extrêmement fan. C'est ce qu'il va appliquer donc au film de science-fiction à travers Blade Runner et Alien, qui est à la fois une continuité des films de ce qu'on appelait le genre des films de monstres de la Hammer, qui est en même temps un film noir dans lequel des personnages sont pris dans l'engrenage d'un destin, requalifié ici parce que c'est un film de science-fiction par le destin que leur impose leur biologie et leurs atavismes. Et qui, bien sûr, met en scène un des personnages les plus féconds et les plus attachants du genre au cinéma, hein, qui est le lieutenant Ripley, hein, qui est une civile et qui va se retrouver elle-même et nous à travers elle face à ce monstre dans ce dédale, dans ce dédale qui donc est au milieu de l'espace et qui est peuplé par des ouvriers eux-mêmes broyés par une machine sociale. Et j'ai envie d'attaquer directement en laissant la parole à ceux qui ont des choses intéressantes à dire, en vous posant simplement la question pour vous, qui n'est pas aussi simple que ça finalement. Est-ce que pour vous, Alien est une œuvre féministe ? Ce qui pose plein de problèmes d'anachronie, de définition des genres, mais si je vous posais une question simple, ce serait moins intéressant.
Alors, je vais faire une première réponse qui va vous faire rire. Ernest et moi-même, qui avons été invités sur cette table ronde, n'avons pas vu le film Alien, ni l'une ni l'autre. Attendez, pourquoi ? Parce qu'on a du mal à voir des films qui font peur. Par contre, ça nous arrive d'écrire des histoires qui font peur. Mais on s'est un peu demandé, du coup, pourquoi on était invités là. On ne nous a pas demandé, hein, si on l'avait vu ou pas pour nous inviter. Ni si on avait un avis sur le sujet. C'est comme ça que ça fonctionne aux Utopiales de manière générale.
Non, en fait, si vous avez su que vous ne l'aviez pas vu, vous n'auriez pas pu rentrer.
Mais on a quand même un certain nombre de choses à dire par rapport à cette question, puisque la question ce qu'on s'est posée, c'est mais pourquoi est-ce qu'on est invité là ? Sans doute parce qu'on est féministe. Et ça répond vraiment au sujet d'une certaine manière. C'est mais pourquoi est-ce qu'on assigne les gens à ce qu'on projette sur eux tout le temps ? Et qu'on les range dans des petites cases, puisqu'en tant que féministe, on serait censé parler de n'importe quoi qui a trait aux féministes, alors qu'en réalité, par exemple, Subtil Béton, ça parle de fascisme, de contrôle social, de lutte sociale, enfin, c'est tout un ensemble de sujets qui ne sont pas les sujets d'Alien.
Si.
Voilà. En tout cas, peut-être, mais vous le direz à notre place, puisque nous, voilà. Mais par contre, on va pouvoir parler de tout un ensemble de sujets, j'imagine, dans cette table ronde autour de... Qu'est-ce que c'est que faire une œuvre féministe ? Ou comment on se positionne de manière féministe dans les choses qu'on fait ? Donc on aura des choses à répondre là-dessus, mais je vais d'abord vous donner la parole sur la première question.
Ok, so... So I'm understanding about 70% of things.
Je comprends à peu près 70% des choses.
Yep. I'm going to do something. Yes, thank you. Yes, yes. I'm not going to inflict my very basic French on you, for which you can be grateful.
Alors, attendez, juste une question. Vous avez besoin que je traduise ou est-ce que vous avez des écouteurs? Non, c'est bon. Ok, ça va, très bien.
Okay. So yes, this morning at about 6 in the morning, I was on my phone and Googled, is alien feminist? Because I have watched it. It was one of the first horror films I ever watched because I am a big baby when it comes to horror. And I did find it incredibly refreshing. It was one of the first kind of big science fiction influences on me. And so I would say that, yes, it is feminist because I think Ripley is a very well-rounded, three-dimensional character, and I enjoyed her. And also, yeah, it's a good, fun film. But yes. Sorry, I don't have much else to say.
Tu vas, Marc, ouais.
Bah, je vais vous le faire en stéréo. Alors moi, c'est le problème inverse des agglomérés. C'est que je connais très bien ce qu'est les aliens, mais je ne sais pas du tout ce qu'est le féminisme. Donc, je veux bien qu'on m'explique, parce que ça m'intéresse énormément, parce que c'est vrai que, quand même... Oui, si vous voulez.
Alors... Du coup, je vais essayer. Effectivement, enfin, je pense que c'est intéressant de se demander ce qu'on caractérise et ce qu'on qualifie aujourd'hui de féministe. Moi, ce que je peux dire d'Alien, j'ai dirigé une monographie qu'on sort en avant-première ici, et donc j'ai revu les films. C'est un des films structurants de ma culture de science-fiction. Et ce que je crois surtout, et ce qui me fascine, et ce qui a continué à me fasciner quand j'ai fait le travail sur cette monographie, c'est de voir à quel point, en tout cas, Alien en 1979 est un film révolutionnaire. Révolutionnaire parce que, donc, il y a évidemment ce personnage d'Hélène Ripley, qui ne s'appelle d'ailleurs que Ripley, qui n'était pas caractérisé, qui n'était pas genré dans le script initial. Donc, au départ, Ripley, c'est Ripley. On apprend son prénom que dans Aliens, d'ailleurs, on ne connaît pas son prénom dans le premier. C'est Ridley Scott qui a voulu donc recruter Sigourney Weaver, qui à l'époque avait des petits rôles chez Woody Allen, qui faisait surtout du théâtre à Broadway, et d'en faire ce personnage qui va devenir donc iconique au fil de la saga. Mais c'est un film incroyable parce qu'il y a peu de films comme Alien. C'est un film, donc on est sur du ce qu'on appelle qu'on commence à appeler du blockbuster depuis Les Dents de la Mer, donc sur de la grosse production. Et voilà un film qui va nous dire que d'une, l'espace est un endroit de prolétaires. Donc la première discussion, hein, c'est une discussion sur les primes et de Parker et de Brett. Parker qui est noir et qui donc est discriminé par son statut social. C'est un film qui va donc pousser une femme, non pas dans une sorte de destin héroïque, de transfiguration, de l'élu qui va découvrir ses pouvoirs, mais vraiment une femme juste qui réussit à survivre. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus intelligente que les autres. Et pas parce que c'est une femme, parce qu'elle est juste plus intelligente, c'est tout. C'est un film qui nous dit que, pour la première fois quasiment, bon, il y a Dark Star avant, mais que l'espace qui jusqu'à présent est représenté dans le cinéma américain comme simplement un nouveau Far West, c'est-à-dire un endroit de conquête, de découverte, de colonisation, donc un endroit qui est traversé par une pensée patriarcale, blanche, invasive. Là, l'espace, c'est l'inverse. C'est un endroit menaçant, c'est un endroit hostile, et surtout, et c'est peut-être le plus important, le monstre, c'est Alien, mais le vrai monstre, c'est pas Alien. C'est le capitalisme. C'est cette corporation qui estime que la vie des êtres humains n'est pas importante, que ces soutiens de l'espace peuvent être détruits, leur corps peut être massacré pour du profit financier et militaire. En 1979, réussir à poser ces choses-là dans un film de divertissement. C'est-à-dire dans un film qui est un film grand public, un blockbuster, aujourd'hui, le cinéma hollywoodien et la machine capitaliste, filmique, industrielle n'est plus capable de faire ça. Et c'est à ce sens-là, et dans ce sens-là, que Alien change radicalement la façon de représenter l'espace. Et il y a un avant et un après. Et des films comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du cinéma de l'imaginaire.
Donc je vais développer un peu parce que je ne vous ai pas donné de définition avec lesquelles vous pouviez ne pas être d'accord, donc histoire d'animer les choses. Je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit, l'hybridation générique qu'accomplit Scott à ce moment-là. Il le fait dans la science-fiction avec Alien et avec Blade Runner juste derrière. Il va le faire juste derrière dans la fantasy avec Legend, où on retrouve exactement les mêmes esthétiques noires de clair-obscur et toutes les problématiques qu'il y a derrière. Le roman noir, le film noir est souvent assimilé à des histoires de détectives. Principalement, le noir est plus riche que ça. Le noir s'accompagne en général d'une vision du monde dans laquelle on découvre derrière une façade éclairée tout un monde de mensonges et de mécanismes qui broient les individus de manière soit politique, soit économique. Et la réinterprétation de Ridley Scott appliquée à la science-fiction, c'est vraiment de transférer deux types de méchanceté. On a la figure du monstre extraterrestre dans héritier du Bug-Eyed Monster de la SF des Pulp et au cinéma incarné par toutes des séries de gens qui sont des acteurs dans des grands costumes en latex, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin du film. Par contre, il récupère une manière de faire du fantastique et de la peur qui revient aux origines du genre, c'est-à-dire de la suggestion plutôt que de la monstration. On est plutôt à une période actuellement où on a tendance à faire des débauches d'effets et de montrer avec quel point on arrive à modéliser des monstres et à montrer les détails. Le fantastique classique, si on remonte à Turner au début du cinéma, va plutôt effectivement suggérer et se servir des contraintes de ce qu'il ne peut pas montrer de manière crédible pour renforcer ses effets. Et cette hybridation-là, on a le personnage de Ripley et elle a un côté féministe, en tout cas dans l'histoire du cinéma, un peu révolutionnaire, un peu de la même manière que l'a été La Nuit des Morts-Vivants de Romero. La Nuit des Morts-Vivants de Romero rentre dans l'histoire parce que c'est le premier film dont le rôle principal est tenu par un acteur noir sans que ce soit problématisé. C'est-à-dire qu'on nous le livre comme ça sans en faire quelque chose de thématique ou de remarquable. C'est exactement ce qui se passe.
Et qui finit par être tué par les Blancs parce qu'on le prend pour un zombie. Hein. Oui. Le message politique est quand même vénère. Hein.
Et Ripley, c'est aussi ça. C'est un personnage de femme, héroïne, mais le fait que ce soit une femme n'est absolument pas problématisé, voire même il y a un jeu avec au niveau des coupes.
Ça fait quand même partie d'une lente évolution au cours des années 70, où c'est à ce moment-là qu'on a eu des héros, même masculins, qui étaient chinois avec Bruce Lee, africains avec toute la Blaxploitation, et qu'on a eu des héroïnes, hein, Maiko Kaji, les films de sabre chinois, etc. Il y avait quand même une lente évolution pour aboutir effectivement à Ripley, où les femmes n'avaient pas forcément besoin d'être juste là pour servir de faire-valoir à un acteur masculin.
Et un des enjeux aussi, moi j'ai l'impression là-dedans, quand on produit de la littérature ou du cinéma, c'est aussi de pouvoir faire exister une diversité de genre, une diversité de corps, une diversité d'origine sociale, mais sans pour autant rentrer dans des quotas ou des sensations de quotas, ou d'avoir des personnages qui sont un peu téléportés et qui ont pas une réelle construction, une réelle force, ni narrative, ni même une bonne construction, quoi, et qui sont là, on a l'impression, juste pour remplir des rôles, faire parité, faire quota, etc. Et du coup, c'est un enjeu qui est hyper important, de produire des personnages qui soient divers, qui soient bien construits, et qui soit et dont la question c'est pas leur genre par exemple n'est pas un problème ou n'est pas la thématique principale. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Subtil Béton. C'est que la plupart de nos personnages sont féministes, mais on s'en soucie peu, c'est pas vraiment la question et c'est pas vraiment le sujet du roman. C'est des personnes militantes comme plein d'autres qui essayent de lutter dans un monde ultra répressif et qui veulent s'en sortir là-dedans. Et qui cherchent. Et donc, l'objectif n'est pas spécialement de problématiser autour de leur genre. Et c'est un truc qu'on retrouve aussi extrêmement bien dans le livre de la séquence Hartman de Saul Pandelakis, où il y a vraiment une diversité de corps, de genres et de personnages, mais où on ne retrouve pas cet effet quota qu'on peut retrouver très facilement chez des auteurs, et en général des auteurs qui sont dans des positions dominantes et du coup qui vont venir poser leurs personnages comme ça pour faire bien, mais qui ne vont pas chercher à les construire en profondeur, avec une vraie une vraie construction générale du personnage, quoi.
Peut-être juste pour ajouter, ce serait une première réponse aussi à, par rapport à Alien, film féministe. Comment aujourd'hui continuer à fabriquer des choses féministes dans notre temps ? C'est de ne pas faire des histoires avec un seul personnage principal qui devient à lui-même, en lui-même un nouvel archétype. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, bon, sans l'avoir vu, je vois bien que notre ami Ripley est devenu le nouvel archétype bah, d'une femme qui est avant tout un être humain, qui vit des choses de manière libérée, etc., mais qui est aussi une femme forte, qui est aussi une femme belle et androgyne et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, et on revient à des nouveaux archétypes. Et comment on ne reproduit pas perpétuellement ça dans les histoires quand la plupart des histoires sont écrites sur le schéma du héros unique et seul qui a une grande quête, qui va sauver le monde ou se sauver lui-même. Si on est aux États-Unis, il sauvera sa famille au passage. Bon, en France, peut-être qu'il la détruira au passage. Mais de toute façon, non mais... Et en tout cas, la question de du coup faire des histoires avec des figures multiples, ce qu'on trouve aujourd'hui beaucoup plus dans l'écriture des séries, qui se prête vraiment très bien à des récits chorales, en fait. Et c'est l'exemple de la séquence Hartman, de Subtil Béton et d'autres, de Becky Chambers. Il y a plein d'auteurs et d'autrices aujourd'hui qui cherchent à nous décaler de ce personnage principal qui, même si on veut le sortir des carcans, vient réincarner ou renouveler l'archétype, en fait, ce qui est vraiment un problème. C'était subversif de voir le corps de Ripley en 79. Si on regarde les mannequins d'aujourd'hui et la gueule de Ripley, c'est plus très subversif aujourd'hui de se dire que des femmes ressembleraient à ça.
C'est intéressant ce que tu dis, et dans cette mouvance, il y a effectivement beaucoup de travaux qui montrent que la volonté de déconstruire le modèle du récit héroïque classique, patriarcal, etc., amène à des nouvelles formes de récits chez Sabrina Calvo, chez River Solomon. Enfin, vraiment, on se rend compte que quand on commence à attaquer finalement ce récit classique, qui est, alors, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais par exemple, vraiment, le Star Wars, c'est vraiment un cauchemar. C'est un cauchemar d'un récit classique, de l'élu transfiguré, blablabla, du rapport avec le père. Enfin, genre, c'est vraiment une structure narrative épouvantable. Avec l'objectification du corps de la femme, là, on est dans tous les clichés d'une. Bref, bon, on sauve un peu l'Empire contre-attaque, mais à la limite. Et à la limite, vraiment.
Non, mais il y a des Jawas.
Mais attends, ce que je voulais dire, et ce qui est important, et ce que vous dites est hyper important, c'est qu'effectivement, ce qui est important dans le premier Alien, c'est que le personnage de Parker, qui est un personnage noir, le personnage de Ripley, le personnage de Lambert. Et le personnage de Lambert, hyper intéressant, dans Aliens, dans le deuxième, quand Ripley est dans la salle de réunion jugée pour ce qui s'est passé pour le Nostromo, il y a des fiches de personnages qui passent et qui sont projetées. Si on s'arrête sur la fiche de personnage Lambert, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Donc Aliens, on est en 86. Il y a écrit « Lambert, né homme, devenu femme ». Lambert est, je pense, jusqu'à preuve du contraire, le premier personnage trans qui est intégré à un récit sans que ce soit un motif, c'est-à-dire précisément sans que ce soit un enjeu narratif. On assume que ces personnages-là soient là parce que ça fait partie de la diversité de la représentativité. Et c'est là où ces films-là sont incroyablement révolutionnaires. Parce que précisément, on parle de politique, on parle de diversité, on parle évidemment donc de féminisme, c'est-à-dire d'un personnage fort qui, je pense, passe le test de Bechdel, c'est-à-dire que Sigourney Weaver, elle n'a pas d'enjeu, elle n'est pas sauvée par l'amour comme Wonder Woman, parce que les femmes, elles sont amoureuses, elles aiment des enfants. Non, c'est un personnage puissant, et je déteste le terme de femme puissante, c'est épouvantable, je trouve que c'est stigmatisant et c'est atroce, mais c'est un personnage qui tient par elle-même et qui, du coup, change le paradigme. Parce que, précisément, ça n'est pas traité de manière hyper lourdingue sur l'idée en disant « Ah, regardez, vous avez vu cette femme incroyable qui est plus forte que les hommes ?» Ça n'est pas vrai. Dans Aliens, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver le personnage de Vasquez. Le personnage de Vasquez est lesbien sans que ce soit jamais dit. C'est évident et ça va pour tout le monde. Et donc, c'est ça la force et la puissance politique de cette saga. Dans l'ensemble, on parle de la première tétralogie, on pourra parler de Résurrection sur lequel tu as un peu bossé, Marc.
De toute façon, même dans le premier, le seul violeur, c'est quand même une machine. Hein. C'est un androïde.
Et dans Résurrection, voilà. Cole, l'androïde, qui est joué par Winona Ryder, n'est pas genré. c'est un androïde androgyne et donc qui ne sera jamais genré. Et si ce n'est que Sigourney Weaver la prend sous son aile comme étant sa fille, parce que c'est la problématique globale de la série, de la maternité, de l'impossibilité de la maternité, mais sans que ce soit, je veux dire, programmatique, épais et lourdingue, quoi. Et en fait, on voit comment sur les quatre premiers, et on pourra parler ensuite éventuellement des deux autres, finalement, chaque réalisateur, sans coordination aussi, parce qu'il faut dire qu'à part, Walter Hill, grosso modo, ces films-là se font quasiment indépendamment les uns des autres. Eh bien, on va planter, semer des graines qui sont effectivement des graines politiques. Et moi, quand j'ai découvert, je n'avais pas vu Lambert. Lambert, je l'ai découvert en faisant la xénographie. Mais c'est dans le canon. C'est-à-dire que Lambert est une femme trans.
Une actrice trans ou cis, parce que c'est aussi un des.
Et puis c'est
un des gros enjeux, parce qu'en fait, effectivement, il y a des modèles qui changent, il y a des choses qui évoluent, mais en fait, il y a un endroit où il faut continuer à ce que les choses elles avancent, et c'est quand même un des gros enjeux actuellement à faire en sorte que les personnages trans soient joués par des actrices qui sont des personnes trans et pas des acteurs et des actrices.
Non, on est en 86, donc on est très très tôt.
Mais continuons à nommer maintenant. Non, bien sûr. Les mais enjeux politiques de maintenant, même si c'est des films qui ont été produits il y a quelques années.
Alors, je vais juste rebondir dessus, parce que cette idée de la modernité de Cameron, faut le dire, il la puise dans l'histoire de la science-fiction. C'est-à-dire que tous les jeux sur la non-catégorisation, sur les genres, sur la liberté de composition, de combinaison, on les a dans l'histoire de la SF, et précède énormément, et sans simplement aller sur ceux qui viennent le plus à l'esprit, comme Ursula Le Guin qui le fait à fond, mais même chez Robert Heinlein. Et cette idée d'ailleurs justement de voir au-delà des catégories, c'est ce qu'on retrouve dans Starship Troopers, et que Verhoeven avait notamment rendu dans la scène de la douche, où justement il avait voulu faire une scène où hommes et femmes étaient mélangés, nus, sans qu'à aucun moment ils ne mettent en scène le moindre un caractère genré autre que leur fonction. Et on le retrouve. Après, on a quand même des modalités très amusantes dans ce que fait Cameron, justement, dans le deuxième. C'est que là, pour le coup, on a une scène, on en parlait tout à l'heure, on n'était pas d'accord avec Marc, qu'au début, on a une scène d'exposition dans Aliens où on a un étalage de testostérone à l'écran. C'est-à-dire qu'on a les Marines qui sont ultra virils, qui vont venir régler le problème. On a justement Vasquez qui fait des tractions limite en s'embrassant le biceps avec la remarque d'un de ses camarades qui fait « Vasquez, on t'a jamais pris pour un mec ?»« Non, et toi ?» et sachant que ce déluge de testostérone sert avant tout à dégonfler et à augmenter l'effet du fait qu'en l'espace d'une minute trente, derrière, ils se font juste massacrer les uns les autres. Et une chose intéressante, puisqu'il rebondit dessus, c'est que Ripley se retrouve dans une position de mère. Elle prend sous son aile donc Newt, qui est donc la seule survivante de toute la colonie. Et c'est en fait, ce sera le but de sa quête au final. Et ce qu'il nous met à la fin, c'est finalement l'affrontement entre deux mères. Mais c'est presque un détail scénaristique, puisque quand je dis deux mères, en fait, le sens n'est absolument ni un sens classique, ni dans un cas, ni dans l'autre, ni spécialement appuyé. Ça nous donne juste cet enjeu qui va arriver et que Fincher derrière prend un énorme malin plaisir à venir détourner, puisque justement il n'y aura pas de descendance, il n'y aura rien, puisque un alien a réussi à se glisser dans le vaisseau. Sachant que sur le film de Fincher, il faut quand même savoir qu'il l'a renié, puisque le scénario qu'il avait prévu était complètement différent. Enfin, pour lui, il ne réveillait Ripley qu'au bout de 45 minutes. Toute la narration était faite par la tête de Bishop. Et puis surtout, celui qui allait réaliser Seven, Zodiac, Gone Girl, Mindhunter, quand il a écrit une planète avec des psychopathes d'oubli grec. Bon, si vous avez vu Seven, vous pouvez imaginer que ce n'est pas vraiment la bande de gentils psychopathes qui ont trouvé la foi dans le trou du cul de l'univers, pour citer le film.
On peut juste ajouter que le scénario initial, c'est William Gibson. Hein. C'est l'auteur de Néromancien. Le premier scénario, la première version du scénario d'Alien 3, c'est William Gibson. Voilà, juste
petite... Mais voilà, mais qui est très très loin.
Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas de continuité entre chaque épisode de Alien. C'est quand même... le premier peut-être, parce qu'il n'était pas prévu que ça devienne une licence comme ça. Mais après, effectivement, Walter Hill est très important là-dedans et choisit un peu des auteurs. Hein, et Sigourney. Sigourney, c'est elle qui choisit, qui valide à chaque fois. Donc il y a une vraie continuité quand même avec ce parti pris de choisir quelqu'un qui va pouvoir apporter sa patte, que ce soit Fincher, tout ça. Et c'est vrai que avec Fincher, elle a été... De toute façon, avec chacun des réalisateurs. Elle a été très, elle les soutenait. Voilà, une fois qu'elle a fait confiance, elle y va à fond. Hein. Donc.
Mais oui.
Oui, en fait, je voulais rebondir et en même temps peut-être poser une question à Laura par la même occasion, mais.
Est-ce qu'on peut donner un casque à Laura qui perd quand même beaucoup de nos échanges, et est-ce qu'on peut lui traduire les choses en anglais ou pas?
Duolingo in high school French is not cutting it, guys. I'm trying really hard.
On en a un ici. Mais ce que je veux dire, c'est il y a quelqu'un en haut, un traducteur qui peut lui traduire en français ou pas? Oui. Ouais, c'est bon.
C'est ici. Ici. C'est le canal 1 ou 2.
Canal 1 ou 2.
C'est sur la droite. Canal 1 ou 2.
C'est deux le channel français? Deux, ok.
C'est le channel anglais.
Okay,
yes. Le channel anglais.
Do you get the French version of what I'm saying right now?
I can hear you in English, yes. Thank you. yes, thank you very much.
Enfin, peut-être que Laura a quelque chose à dire sans que j'ai de questions à poser, mais sinon j'avais une idée de question pour te lancer, Laura, je ne sais pas.
Ok, yeah, ask away.
En fait, nous n'avons pas vu Alien, donc on parle depuis notre méconnaissance. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit, cette histoire de relation de mère à mère, ou en tout cas de relation, moins explorée entre des personnages, qui est aussi un des autres enjeux d'une approche féministe des récits, c'est qu'est-ce qu'on donne à voir et comment on donne à voir des choses qui sont moins vues. Et donc notamment d'autres intimités que celles qui sont le plus souvent explorées. Donc ce qui est le plus souvent exploré dans les relations et les relations intimes, c'est le lien amoureux et des fois le lien de filiation. Bon, c'est ceux qui sont explorés tout le temps. Par contre, toutes les relations autres, qui sont très nombreuses, depuis l'amitié jusqu'à, par exemple, la complicité entre mères, ou je ne sais pas, bref. Peu importe, elles le sont beaucoup moins. Et du coup, comment est-ce qu'on fabrique des récits qui donnent accès à ces intimités-là et qui donc ouvrent les imaginaires sur des réels qui sont beaucoup plus divers en réalité que ce qu'on nous raconte dans les histoires. Et ça, c'est pour nous une question importante qu'on a travaillé dans Subtil Béton à un autre endroit qui est l'endroit du collectif, qui est qu'est-ce que c'est qu'une intimité vécue au quotidien dans un collectif qui n'est pas une famille. Becky Chambers l'a très bien fait, par exemple, dans l'espace d'un an dans un vaisseau spatial. Voilà, nous, on l'essaye aussi dans Subtil Béton. Est-ce que dans Alien, on trouve des registres relationnels qui ne sont pas ceux les plus courants, les plus attendus? Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire.
Yeah. Okay. Oh, this is so much easier. Thank you. yes, I think one of the downsides of Alien for me is the fact that she is usually the only woman, or most of the time she's kind of on her own running away. In the sequel, you do get her with Newt, but most of the time it is still kind of, a lot of the time, I think, Ripley in isolation. So the book that just got translated into French was sort of a response to that, because I very deliberately made 5 women on a spaceship, and I wanted to have 5 different women's approach to the same problem, so that you wouldn't just get like the one woman's opinion on the things. You would have them disagreeing. And I have one character who's sort of a surrogate mother to the main character, and it's a very fraught relationship. They need a lot of therapy. And yeah, I have a lot of questions of motherhood and what does it mean to be motherhood, because a lot of the time in science fiction movies especially, you didn't get that. Same with Gravity. It's just Sandra Bullock on her own, and she's amazing in it, but she's in silence like most of the time. And then a lot of the time you get female characters who are left behind. So Liv Tyler has not once but twice been the astronaut life, or the astronaut's wife, left behind. So yeah, I think that that's something that is still lacking in a lot of both like historical and modern science fiction work. And I'm trying to do my part to fill it. Thank you.
Moi, en fait, ce qui me surprend vraiment, c'est que donc Alien, donc 79, est un film qui est écrit par des mecs, qui est réalisé par un mec. On est en 79, c'est-à-dire que vraiment, enfin, il y a ce biais de contemporanéité qui fait qu'on a l'impression que souvent le mindset collectif est à peu près celui qu'on connaît aujourd'hui. Or, en 79, c'est absolument pas ça. Et moi, je suis surpris par... Je ne sais pas très bien comment le dire, mais enfin... L'avance... Enfin, mais c'est ce qui nous surprend d'ailleurs dans les grandes œuvres de SF. C'est-à-dire, on dit souvent « Waouh, quel visionnaire », etc. Sauf que Alien, c'est pas juste le programme, et c'est pas juste « Waouh, il avait vu juste Soleil Vert, blablabla, je sais pas quoi ». C'est juste qu'il est politiquement dans un contexte qui est un contexte d'une industrie capitaliste. Il délivre des messages qui, encore une fois, font basculer un paradigme. C'est-à-dire que c'est des messages politiques, sociaux. Ce personnage de Ripley devient un personnage iconique, et on peut évidemment discuter de ce qui devient par la suite et de la problématique autour de la maternité, mais qui n'est jamais abordée et qui d'ailleurs va décliner de manière très intéressante, à mon avis, dans Prometheus, que je trouve assez raté, et Covenant, sur qu'est-ce que c'est que de créer la vie quand on est un androïde, et donc quand on est un homme, avec cette scène homoérotique entre David et Walter dans Covenant, où l'idée c'est de dire, voilà, j'ai été créé, je suis un androïde, je suis stérile, et donc continuer à tirer ce fil de se dire, c'est pas tellement une question de maternité, mais de se dire, qu'est-ce que c'est que de donner vie à un autre organisme ? Et donc un organisme étranger, comme peut l'être un fœtus dans le corps d'une femme qui est un organisme étranger. Et en fait, je trouve qu'il le traite d'une façon qui est justement... Enfin, moi, je suis assez surpris en tant qu'homme blanc cis, homo certes, mais blanc cis quand même. Je trouve que sa finesse d'année... Enfin, la façon dont il le traite... Et moi, je trouve ça assez stupéfiant parce que, encore une fois, en 79, on n'est pas du tout dans ce type de mindset-là. Et c'est là où je trouve, une fois de plus, que le film est assez politiquement révolutionnaire. Quoi. Ah. Voilà. Pardon.
On est tellement chiant qu'elle s'est endormie. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même là, personne n'en parle, mais bon, c'est ce que je vais dire là, dès qu'il sera revenu. C'est la grande chose de Alien, ok, ce truc féminin, mais c'était dans un mouvement. Alors, pour en revenir à. Pardon, ça va ?
Oui,
d'accord.
La dame va très bien, elle se souvenait de son prénom. Elle a eu je pense qu'il fait un peu chaud dans la salle et elle a eu un petit coup de chaud. Mais, enfin,
je vais rebondir un peu sur ce que tu disais parce que le show must go on, quand même. Mais c'est qu'effectivement,
il
y a ce genre de nouveau paradigme avec cette héroïne féminine, etc. Mais le grand plus pour moi, pour Alien, c'est le Alien quand même. C'est la première fois qu'on donne la création d'une créature comme ça à un artiste qui était Giger, qui l'a vraiment fait comme une œuvre d'art. Et tous les aliens après Alien, après ce film, sont devenus autre chose. C'est vraiment la première fois qu'on a une genre de créature. Alors, elle vient de plein de choses. Hein. C'est un parasite, c'est plein de choses. Je l'imagine, moi, quand il a été présenté, ses peintures à la production anglaise qui ont dû halluciner. C'est des tableaux qui font 2 mètres sur 2, tout à l'aérographe, avec le facehanger, avec tous ces genres de trucs-là. Les mecs, ils ont dû halluciner. Tu vois. Et après, il est resté, il passait ses nuits à rajouter des os, et les autres étaient obligés de lui filer des coups de pied pour qu'il parte. Donc, tu vois, c'est quand même un des trucs qui reste, le alien... C'est la créature, c'est l'alien. Alors après, lui non plus, c'est un alien. Il n'est pas genré. On sait pas, il a en même temps un côté très pénétrant et en même temps, il procrée. Enfin, il y a un genre de... Là aussi, c'est une nouvelle créature. On n'avait pas tellement vu ça avant dans le cinéma, hein, quand même. Donc, peut-être chez Cronenberg, effectivement. Donc voilà, après... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas trop. Voilà.
Bah, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand tu dis on est en 79. Bon, parce qu'en fait, on est en 2022. Et on n'est pas tout à fait en 79. Et ce qui est aberrant, j'ai l'impression, c'est quand je lis Une femme au bord du temps de Marge Piercy qui vient de paraître aux éditions Guater. Quand on lit ce livre, on se dit mais comment ces violences qui sont structurelles, qui sont des violences psychiatriques, des violences mises en place par l'institution psychiatrique, des violences racistes, des violences de classe et liées au capitalisme, on le lit maintenant, ça vient juste d'être traduit, alors que ça a été écrit à la fin des années 70 ou au début des années 80, je ne me souviens plus. Donc on se dit mais comment, pourquoi c'est encore, pourquoi c'est d'actualité? Comment ça se fait que ça a été écrit aussitôt? En fait, c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi ça n'a toujours pas changé? Pourquoi on en est toujours là, maintenant? Et pourquoi, oui, en fait, il y a des questions, on peut les dire, ah, mais c'était les années 80, ah, c'était les années 70, des luttes 30, des luttes des personnes trans, il y en avait dans les années 80 et les années 70. C'est pas nouveau, et c'est juste à un moment, les enjeux politiques qu'il y a eu, que, bah oui, on peut voir des choses nouvelles ou révolutionnaires dans le cinéma à ce moment-là. Comment on continue à faire bouger les choses, à les critiquer, à avoir de la distance, à se dire que c'est pas suffisant et que ça sera jamais suffisant, parce que tant qu'il y aura ce niveau de violence dans notre société, tant qu'il y aura ces niveaux d'inégalité dans cette société, oui, eh bien, les bouquins de Octavia Butler nous sembleront d'actualité, les bouquins de Marge Piercy nous sembleront d'actualité, les bouquins de Ursula Le Guin nous sembleront d'actualité. Et en fait, à un moment, il y a un droit où il faut faire, enfin, les choses, il faut continuer à les critiquer pour que ces changements ils puissent avoir lieu, et on peut pas s'arrêter maintenant à ces questions-là. Et je pense qu'en ce moment, il y a plein de SF qui écrivent et qui viennent aussi bouger ces choses-là. Et c'est vraiment super, mais je crois qu'il ne faut pas arrêter d'essayer de faire bouger les choses et d'avoir des distances critiques, même si des choses elles peuvent nous paraître révolutionnaires dans le moment où elles ont été faites.
Vous avez vu, à chaque fois, on est deux et on se complète. Mais... Juste aussi la question de pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a que ce film-là, quand tu viens de citer Octavia Butler, Le Guin, Piercy et d'autres, qui disaient des choses très subversives sur toutes ces questions de classe, de genre, de race et plus globalement d'oppression et de discrimination dans la SF, dans ces années-là, dans les années 60 et 70, ça existait. Bon, elles n'ont pas fait du cinéma, elles ont fait des livres, parce que on parle en fait de production et de production industrielle. Qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas? Effectivement, ce qui est incroyable avec Alien, c'est que ça sorte au cinéma. Tout ce qu'ont fait ces autrices-là, c'est sorti en livre. Nous, la question que ça nous pose d'un point de vue féministe, c'est les conditions matérielles de création et de production. Donc c'est d'un point de vue féministe, on va dire matérialiste. Et ça se pose de la même manière si on réfléchit uniquement à la question de la littérature. Donc c'est déjà un peu plus accessible de faire un livre que de sortir un film blockbuster, mais ça ne l'est pas non plus. Du coup, la question, c'est qui est-ce qui écrit? Et quand on fait la liste des auteurs et des autrices et de qui est-ce qui écrit, ben là, on peut se poser des questions matérialistes sur qui a accès à des privilèges suffisants pour prendre le temps dans sa vie d'écrire. Parce que écrire, en général, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc, soit on est déjà très bien doté pour avoir le temps d'écrire, soit on a, en général, une compagne qui ramène le salaire, et puis qui s'occupe de la maison, et puis qui s'occupe des enfants, puis qui, en plus, qui débriefe sous l'oreiller pour aider l'auteur merveilleux à écrire, parce qu'en fait, il n'écrit pas tout seul, même s'il n'y a que son nom sur la couverture. Elle est remerciée, Marie-Christine, en fin de livre, avec Jean-Michel, qui est l'éditeur, mais en fait, ils ont coécrit le livre, Marie-Christine, Jean-Michel et Bernard, en fait. Ils sont co-auteurs, mais on voit toujours que l'auteur. Et nous, ça nous pose la question encore plus largement de qu'est-ce qu'on fait pour changer ça matériellement ? C'est-à-dire comment on donne accès à des espaces de création, d'expression pour d'autres personnes que les personnes très bien dotées, privilégiées. Alors j'en profite juste pour switcher sur deux événements qui vont avoir lieu dans le programme des Utopiales demain et mardi, parce que c'est aussi une envie de bouger les Utopiales, de proposer autre chose que des conférences où les stars auteurs sont sur la scène pour vous montrer comment, quand on est consacré parce qu'on a sorti un livre ou qu'on est spécialiste, on peut parler, mais que vous, ben, vous nous écoutez. Et comment on sort de ça et on rentre dans des processus de co-création ensemble, parce qu'en fait, on est toutes et tous capables de faire des récits différents et de faire des récits qui, du coup, ont une diversité de points de vue plus importante. Et donc là, il y a juste deux images qu'on voudrait vous montrer, si la régie veut bien les passer. Je vois des gens qui bougent en régie. Voilà, ça c'est demain. La première image c'est demain, si vous êtes disponible, venez. C'est dans le programme des Utopiales, mais ça se passe pas dans le bâtiment de la Cité des Congrès, ça se passe juste à côté au lieu unique. Et ça dure 4 heures, il faut venir pour commencer avec nous à 14 heures. C'est pas un atelier en entrée continue. Et c'est autour de l'utopie et des futurs désirables, avec une approche féministe, mais on parlera pas spécifiquement de féminisme. On parlera de sociétés futures désirables pour nous depuis nos points de vue. Aussi dégagé d'une société capitaliste, industrielle et militarisée. Et on verra ce que ça donne. Et puis mardi, c'est la deuxième image. Alors peut-être c'est nous qui la faisons bouger. Bon, vous la verrez dans le programme. Mardi, il y a un atelier d'écriture. Et alors avec une autre démarche, c'est dommage que ça passe pas. Voilà. Une autre démarche, puisque cet atelier d'écriture, pour le coup, il est aussi ouvert à des personnes qui n'ont jamais écrit, qui pensent qu'elles n'ont rien à écrire, qu'elles ne sont pas légitimes, qu'elles n'ont pas d'imaginaire de comment écrire et sur quoi. Et par contre, c'est un atelier qui est en mixité choisie, qui est ouvert aux personnes qui ont un vécu de discrimination sur les questions de genre dans leur vie, donc qui sont des femmes, des lesbiennes, des gouines, des trans, des personnes non-binaires, etc. Donc voilà, c'est ça, il arrive, voilà. Et ça, ce sera mardi à quelle heure ? À 14h, voilà. Et vous êtes bienvenue. L'idée, en fait, en tout cas pour moi, et c'est important de le placer dans cet endroit-là, c'est qu'est-ce que c'est être féministe dans ce monde et qu'est-ce que c'est avoir des productions féministes ? C'est penser la question du travail reproductif, de la transmission, et de faire autrement ensemble que de continuer les perpétuelles mêmes starifications en mettant toujours les mêmes au même endroit.
C'est juste pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand même Leigh Brackett qui a écrit Star Wars, hein.
What's the question?
No, you don't want to go? No, no. Okay. Moi, sur ce que vous dites là, sur cette question de 79, etc. En fait, ce que je pense, c'est que évidemment que Ursula Le Guin et d'autres autrices, d'autres auteurs sont là avant et c'est d'ailleurs la beauté, la noblesse de la science-fiction d'être en avance sur les combats politiques. Je crois que ce que je trouve et ce qui me paraît intéressant, c'est une question d'échelle en fait. Alien, c'est un blockbuster qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que c'est un blockbuster qui est destiné à tout le monde, à tous les publics, à toutes les familles, et qui donc du coup, c'est la question des alliés en fait. C'est-à-dire de se dire que ces combats-là, ils ne sont pas d'un seul coup, il y a une sorte de changement d'échelle et qui fait que si on peut, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui et à ce que fait aujourd'hui l'industrie cinématographique du divertissement, qui ne fait que reproduire des modèles dominants tout sous couvert de dire ah ben on fait des films avec de la diversité, ah là là regardez un super-héros noir, alors que c'est vraiment du pur produit capitaliste qui est censé attirer un public niche dans les salles et donc faire plus d'argent en prétendant représenter de la diversité. Il faut pas, là pour le coup, il faut pas se faire d'illusions, ces gens-là veulent faire de l'argent, c'est ce qui les intéresse et c'est certainement pas le message politique qui est derrière, c'est du blackwashing, du greenwashing, du pinkwashing, ce que vous voulez, mais enfin tout ça à la fin, c'est attirer des publics cibles dans des salles pour faire de l'argent. Quand Scott fait Alien, je pense, il me semble, c'est mon interprétation et donc elle vaut ce qu'elle vaut, mais il me semble que justement ce message politique d'Alien, d'un seul coup, il est plus intelligent, plus fin, il n'a pas une vocation mercantile et du coup, eh ben, ça ouvre petit à petit, c'est microscopique, hein, c'est rien, mais d'un seul coup, on propose un autre modèle narratif, on propose un autre modèle social, on critique un modèle économique dans un film grand public qui s'adresse au plus grand nombre. Et il me semble que ces trucs-là, il faut les prendre, il faut les chérir, parce que ça nous aide dans nos luttes, ça nous aide dans nos identités, et ça permet de diffuser au plus grand nombre et à une société générale qui n'est pas forcément ouverte à ces questions-là, une autre forme de modèle, voilà, et avec la force de frappe que peut avoir l'industrie cinématographique. Et donc, je pense qu'il faut, garder, sans starifier quoi que ce soit, mais se dire, voilà, quand on a ces petits jalons-là, ils sont hyper précieux pour toutes nos luttes, parce qu'ils touchent un public qui n'est pas forcément touché par les littératures ou par des œuvres qui sont effectivement des œuvres plus politiques et donc qui s'adressent à un public plus restreint. Donc ces trucs-là, en fait, il faut les prendre et il faut se dire, c'est cool, c'est un petit coin en plus, c'est pas grand-chose, mais ça fait globalement avancer un peu collectivement les sociétés, me semble-t-il.
Mais...
Yes. Yeah. I'd agree with that, because I think there's so many different circles and levels and layers. So like Octavia Butler, for example, is very well known in science fiction circles, but she, if you ask someone who isn't remotely aware of the science fiction world, they're not going to know how amazing all of her stories are. And I do think it's a travesty that none of her work has been adapted for the big screen. Like when people were talking about dystopias and the fact that in Parable of the Sower, the president is literally saying, make America great again. Like, it was uncanny. I read it in 2016 and was like, wow, this has never been more relevant. And there's so many amazing, wonderful works as well by marginalized creators that have, say, fallen out of print or, you know, had very quiet releases. And, you know, people who really go out and search for them may find them and really connect with them. But I think it is sometimes just so sad how much beautiful, wonderful work is at risk of being lost, and that's where it's up to us as readers, as viewers, as everything to both, yes, support the big, huge blockbusters that bring in the money and can open doors after them, but also help drag open the doors yourself, you know, like find those new writers, those lesser known writers, the, you know, lesser known independent films, and help uplift them so that they can reach more people and that these beautiful stories can be talked about. I find as an author, you have this huge, you know, pressure that something has to like do well immediately. And if you don't like hit the bestseller list in week one, then that's it, you're dead, your book has failed. When there are still people who are like finding my work 10 years later and it's changing their life. And it's very easy as the creator to forget that, because you don't hear about it most of the time, right? Like someone reads your book and it may really touch them and you never know. But that's one of the beauties of it, right? You're having this asynchronistic conversation, I think, and I think that's one of the biggest privileges of art. But yes, you have to be privileged to even have the time to sit down and do it. I'm lucky enough, I have a job that would let me fly here. I have a supportive spouse. All of that feeds into the fact that I am able to take the time to make art, and I try not to take that for granted. Thank you.
Ce qu'on oublie, c'est que ces films-là, c'est des films prototypes. C'est des films qui... Il y a un avant et un après. Il y a une période où c'était possible. Tu regardes, il y a beaucoup de films de science-fiction maintenant qui sont des sous-aliens, des sous-Blade Runner. Ridley Scott a quand même eu l'extrême talent de nous créer deux grosses typologies d'univers comme ça, qui sont déclinées... En voiture, on voit là, dans les jeux vidéo, dans beaucoup de choses. Il y a eu avant 2001, l'Odyssée d'espace. Ça devient des typologies de cinéma. Maintenant, c'est plus possible. On n'a plus que la possibilité de faire des choses qui ont déjà marché. Il n'y a plus aucune prise de risque. Il y a l'autre fait aussi que c'est un Anglais. C'est des films comme Blade Runner ou comme Alien, c'est des films typiquement européen, c'est pas des films américains. C'est tourné en Angleterre avec des réalisateurs anglais, avec des équipes anglaises, avec toute une inspiration française. Voilà, Moebius, Giger, Suisse. Tu vois, c'est vraiment. Et ça, maintenant, c'est plus possible. Maintenant, on recycle, on fait des photocopies. Alors, des fois, elles sont très, très, très bien faites, mais les photocopies, au bout d'un moment, perdent leur essence. C'est un peu comme dans le fétichisme. Dans le fétichisme africain, les premières statues ont vraiment beaucoup de pouvoir, et au fur et à mesure que vous faites des copies de ces statues, elles en ont de moins en moins, et je trouve que c'est ce qui est en train de se produire avec tous ces succès d'années qui font qu'au bout d'un moment, elles n'ont plus de sens.
Oui, je pense que tu as absolument raison, et je vais vous dire quelque chose d'assez fort et d'un peu provocateur, mais l'industrie a tué la science-fiction. Vraiment, je le pense. Aujourd'hui, la science-fiction, c'est un imaginaire majoritaire. C'est-à-dire que quand vous voyez les séries Netflix, les grandes franchises, Disney, blablabla, c'est de la SF, sauf que c'est la SF qu'on déteste. C'est-à-dire la SF dévitalisée, qui reproduit des schémas narratifs identique, qui ne parle plus de rien, qui ne parle plus de nous, qui nous prétend, encore une fois, mettre un peu de diversité pour s'adapter à la société, parce qu'il faut quand même avoir des super-héroïnes hispaniques ou des héros gays ou lesbiens. Enfin, mais tout ça, c'est du pur de l'industrie, pur et dur. Il n'y a plus aucune inventivité. Il y a plus. Enfin, c'est quand même incroyable. On arrive à un moment donné où tout est franchisé. On nous ressort d'ailleurs Alien, Disney a récupéré en rachetant la Fox, la franchise. Ils sortent une série qui va sortir l'année prochaine et qui va être vraisemblablement un carnage comme tout ce qui touche. Et non, mais c'est terrifiant. En fait, moi je suis. Enfin, on travaille beaucoup là-dessus avec mon co-auteur Simon Rion. L'appauvrissement de l'imaginaire science-fictionnel qui est incroyablement riche et incroyablement divers et incroyablement politique en littérature. Et aujourd'hui passé par la grille du capitalisme et de l'industrie cinématographique qui en fait de la pure surface, du divertissement, c'est moche, c'est du CGI, on peut représenter n'importe quoi. Alors que dans Alien,
non, mais c'est
Alien c'est hyper intéressant parce ouais. Que sur Ridley Scott ne voulait pas voir un homme dans un costume. Et c'est pour ça, parce que quand il voit, il prend Balaji Badejo qui fait 2m10, et quand il le voit, il voit encore un homme dans un costume. Et c'est parce qu'il ne veut pas voir ça qu'il va filmer l'alien différemment, qu'il va le prendre en hors-champ, qu'il va faire des gros plans. Donc la limitation de moyens, ça crée de l'inventivité. Aujourd'hui, où on peut tout représenter, on voit des trucs immondes sur des fonds verts, des gens qui tournent parfois sans être face l'un à l'autre, et ça crée un appauvrissement et un délitement de l'imaginaire de science-fiction, et je trouve ça terrifiant.
Je pense que ça se passe avant, les décisionnaires sont les gens du marketing. Et donc, ils ont des petites coches de public comme ça à mettre, et ils produisent que ce qui remplit toutes les cases, c'est tout.
Excuse-moi, moi je voulais juste revenir sur ta comparaison de la photocopie et de la fétichisation, et je voulais dire que je suis vraiment pas d'accord avec cette comparaison, et pour moi elle s'inscrit dans des trucs d'exotisation raciste et de la fétichisation qui rentre aussi dans les trucs de réappropriation culturelle vraiment dégueu, et où du coup je trouve que c'est mal placé comme exemple.
Je vais être un peu moins pessimiste que ça. On est dans une phase de grosse concentration de studios avec des robinets énormes qui nous sont balancés, mais aucun pouvoir marketing ne réussira vraiment à empêcher la création, hein. Elle fonctionne encore de plein de manières. Après, elle est plus dure à trouver. C'est noyé dans les grandes franchises. Mais on arrive quand même à trouver pas mal de pépites qui sortent encore régulièrement. Hein. Moi, le dernier Jordan Peele, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. J'ai été scié il y a 3 jours sur la séquence finale de CGI d'Alex Garland dans Men, qui fait un truc absolument incroyable à la fin. Enfin, par contre, effectivement, ça devient un peu plus dur. Il y a un sacré écran de fumée du fait de la concentration des studios. Mais l'histoire des cinémas nous apprend un truc. C'est qu'à chaque fois que les studios ont commencé à se concentrer comme ça, c'était le début de la fin. Et je pense absolument pas que le conglomérat Disney dure extrêmement longtemps. En tout cas, pas sous sa forme actuelle. Non, c'est assez simple. Maintenant, autour du conseil d'administration, ils ont plein de gens qu'on les connaît bien. C'est nos ennemis dont on parle tout à l'heure. Ils veulent du 15% de rentabilité. Quand Cameron fait plus d'1 milliard avec Avatar, il le fait pour moins de 300 millions. Il leur faut qu'ils en dépensent 700 et plus le marché chinois pour réussir avec le dernier Avengers. Donc, non, ils vont s'effondrer sous leur propre poids. On nous reste 3-4 minutes pour poser quelques questions, parce qu'on disait, autant si on inversait un peu la direction.
Bonjour, merci beaucoup pour la conférence déjà. Vous avez parlé un peu de Blade Runner et du coup je me demandais qu'est-ce que vous pensez du coup de la vision de Ridley Scott quand on voit la différence entre un personnage comme Ripley et j'ai complètement oublié le nom, mais le personnage principal féminin dans Blade Runner.
Oui. Rachel.
Rachel, parce que, enfin.
Bon allez, je vais répondre vite fait. Le Blade Runner, ce que fait Ridley Scott, c'est une hybridation générique consciente, beaucoup plus, un peu plus schématique que ce qu'il fait dans Alien. Il veut réaliser un film noir de détective dans la traduction, dans la grande tradition des films des années 50. Et donc, le personnage de Rachel est sa réinterprétation de la femme fatale, qui est un personnage archétypique de ce genre-là, qu'il donc réinterprète en tant qu'androïde. Mais du coup, il la conçoit absolument pas de la même manière. Rachel, c'est vraiment... Et le truc, c'est qu'il a aussi le matériau original de Philip Dick. Et il se trouve que Dick lui-même, en plus d'être un auteur d'un des plus grands écrivains de tous les temps, en plus d'être ça, c'est quelqu'un qui n'a pas écrit que de la science-fiction, mais qui a aussi écrit une dizaine de romans noirs, sociaux, dans les années 50. Donc il s'inscrit aussi dans ce genre-là. Et les systèmes de personnages de Philip K. Dick sont assez stables. Et il se trouve que lui aussi a un archétype de personnage féminin qui correspond, qui est dans la continuité des femmes fatales et qui est un personnage de roman qu'on retrouve. Donc voilà, il est...
On peut convenir que Dick est spécialement sexiste et misogyne comme tous les auteurs de son temps quand même, et du coup ça se transparaît dans cet archétype où c'est pas le sujet de venir subvertir cette question-là. Il y a d'autres sujets intéressants dans Blade Runner, mais je veux dire, ça s'appuie sur les textes d'un auteur dont c'était absolument pas la préoccupation de faire autre chose de ces personnages féminins. Donc, ouais. On ne fera pas de conférence Blade Runner, virgule, féministe.
Non. Non.
Bonjour. Donc, ma question, c'est... Donc vous dites que les récits maintenant sont quand même plutôt tenus par les grandes franchises, qui sont finalement des grandes machines qui s'intègrent un peu dans notre société plutôt patriarcale. Est-ce que du coup cette appropriation des franchises par les franchises de ces récits met pas aussi en péril l'accès pour des personnes plus minoritaires comme les femmes, les personnes trans, etc., d'avoir des budgets pour amener leur récit au cinéma, amener leur récit à un plus grand public, quand avant, peut-être, c'était plus simple de trouver des budgets, ou en tout cas, je ne sais pas, de s'intégrer dans cette industrie. Le fait que maintenant, ce soit tenu par des grandes entreprises fragilise encore un peu cet accès.
Yeah. I think it does, for example. I've gotten close on options on a couple of my work before, and I've been in two minds of like whether I would actually want my things adapted, because you do have to give up a lot of creative control unless you're like such a huge bestseller you can kind of come in, or you have previous film experience yourself. For me at least, I'm in no way going to ever spawn a giant franchise, I don't imagine. But I think on the one hand, it could bring your work to a whole new level and could break through that mainstream, and you could actually make a living, like a regular living wage as a writer consistently, which would be lovely. But you would also then potentially have to see your work really twisted in a different way. And I do think because there are so many saturations of franchises now, it does crowd out the chance of more marginalized creators to get their work adapted. Instead of someone taking a chance on adapting a new fantasy series, they're going to create yet another George R. R. Martin spinoff. We're already going to get a Jon Snow prequel series, evidently, now, too. And it's going to be Star Wars and Star Wars over and over, and Star Trek over and over. And those are, you know, great, beloved franchises. But I do think, yeah, eventually they are going to crumble over their own weight, because I think people do want to see new things. And I do wish that the studios would be a bit more ambitious.
En un mot, moi, je suis très partagé et je suis très divisé, parce que évidemment que l'industrie a pris dans son logiciel la question de la représentativité, et c'est évidemment un succès, et c'est évidemment quelque chose dont on doit se réjouir. Donc ça, c'est important, et tant mieux. Parce que le rôle modèle, c'est important, parce que quand on grandit comme une personne racisée, comme une personne homosexuelle, et qu'on voit que des modèles qui sont des modèles blancs, hétéros, ben à un moment donné, on ne se reconnaît pas, on est exclu, blablabla, je ne vais pas vous raconter ça, vous connaissez par cœur. Mais néanmoins, je suis hyper gêné, parce que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on voit que cette industrie capitaliste utilise finalement cette représentativité pour finalement générer du profit, c'est-à-dire pour, de manière opportuniste, de manière certainement un peu cynique, parce que je ne pense pas que ces gens-là soient des grands révolutionnaires et des gros gauchistes, hein, on ne va pas se mentir, je pense que les patrons de Disney, c'est pas vraiment ambiance lutte ouvrière. Du coup, à la fois, c'est effectivement une forme d'évolution à laquelle ils sont poussés par les évolutions de la société, et en même temps, c'est une forme de récupération. Et là, j'avoue qu'il y a des endroits avec lesquels je ne suis pas confortable, et en même temps, tout en pensant que c'est important. Et du coup, ben, c'est bien, mais c'est pas bien, mais c'est bien, mais c'est pas bien. Et moi, je ne sais pas très bien où je me situe par rapport à ça, pour être tout à fait honnête.
Oui, j'ai l'impression que du coup, c'est une des chances qu'on a en pouvant venir ici. De profiter de moments où on est censé parler de Alien pour aussi valoriser tous les trucs qui se passent et qui sont hyper bien. Et moi, j'avais envie de revenir sur ce matin, il y avait une table ronde autour de la dystopie et de l'utopie, et où il y a eu un moment de discussion justement sur la manière dont se construisent les récits et comment sortir de récits héroïques, et avec Lisa Blumen, qui a écrit Avant l'oubli et qui a fait une intervention très à propos, et notamment en citant le texte de Ursula Le Guin qui s'appelle La théorie de la fiction panier, et de redire en fait il se passe quand même vraiment plein de nouvelles choses qui sont hyper bien et qui permettent de continuer à avancer sur ces questions là et que même s'il y a des films très chouettes qui sont sortis il y a 50 ans, et ben, on a encore plein de belles choses à faire et plein d'énormes choses à valoriser ici, dans ce genre d'endroit.
Je suis désolé, j'ai une table ronde, je filme, et bisous.
Et peut-être pour dire que sur cette question d'être mal à l'aise, de c'est bien, c'est pas bien, vive l'industrie du cinéma quand elle nous montre d'autres choses, mais en fait, ils récupèrent tout, ces salauds de capitalistes, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de continuer à être exigeant sans tout jeter à la poubelle bêtement? Donc, aller voir les choses qui nous plaisent, les critiquer sur les endroits où ça va pas, c'est pas assez, ou qu'on voit qu'il y a des intentions qui ne sont pas celles qui nous semblent légitimes, et donc de continuer à pousser les limites. C'est le thème, non? Les limites. En fait, si le monde change, le féminisme aussi change. Si des choses deviennent à la mode capitalisto-industrielle, eh ben, nous, il faut qu'on se repositionne. Si tout d'un coup, ça devient vachement plus compliqué d'être féministe, parce que même Marine Le Pen fait de la récupération féministe, il faut qu'on devienne antifasciste beaucoup plus clairement. En fait, la question de replacer les lignes... elle est toujours d'actualité, et du coup, ben, il n'y a aucun produit culturel qui va être fabriqué dans une époque donnée qui sera éternellement suffisante et suffisamment féministe. Si on la replace dans son contexte, on peut se dire que ça a été très important et que ça l'est donc toujours aussi. Continuons à fabriquer des récits qui nous intéressent. Voilà.
Yeah.
Pour conclure,
I'd just like to say very quickly that I am going to be signing books at the bookstore after this, and I'm always terrified no one's going to come. So please just come, even if you're not going to buy the book, just to say hi. I'll practice my bad French. All right, thank you. Now, yeah, I'll go now.
Merci à tous d'avoir suivi, et vous pouvez retrouver Laura qui va dédicacer tout de suite au niveau de la librairie. Merci beaucoup, excellente fin de festival, au revoir à tous.